RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal avec vous, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, c'est un braquage estimé à 1 milliard 200 millions de francs CFA. Au Tchad, un transporteur d'or victime d'une attaque des hommes armés lui ont volé 25 kilos de pépites. C'était le 5 janvier dernier à la sortie de la ville d'Abéché. Trois personnes ont été arrêtées il y a quelques jours. Le chef de l'armée soudanaise achève une tournée en Afrique de l'Ouest. Un voyage de plusieurs jours pour chercher des soutiens. Alors que le Soudan tente d'arracher sa réintégration à l'Union africaine. L'émotion et le souvenir au Cameroun, 2 ans après l'enlèvement et le meurtre de Martinez Zogo, Amplitude FM rend hommage à son ancien animateur vedette. Au sommaire également, l'Union européenne signe un gros chèque pour l'Angola, la RDC face au défi des réformes après les négociations avec le FMI. Et puis on sera à Ouagadougou à la fin de ce journal, la capitale burkinabé qui tient à partir d'aujourd'hui son festival international de danse. Vous l'entendrez, toute la ville va se déhancher, même la maison d'arrêt de Ouagadougou. Il transportait plus de 25 kilos d'or au Tchad, un transporteur victime d'un braquage à main armée. Les faits remontent au 5 janvier dernier. Ce convoyeur quittait la ville d'Abéché, direction la capitale, N'Djamena. C'est à la sortie du chef-lieu de la région de Wadaï, dans l'est du pays, qu'il a été pris pour cible par des braqueurs armés. Alors que sait-on de ce qu'il s'est passé? Réponse à N'Djamena avec Nadia Ben Mahfoud.
Selon un marchand d'or d'Abéché, au moins 20 commerçants avaient confié de leur brut non travaillé à un transporteur afin que leur marchandise soit acheminée à N'Djamena où elle est habituellement revendue ou envoyée au Moyen-Orient. Mais à la sortie d'Abéché, le transporteur a été attaqué par une voiture avec à son bord 4 individus armés. Le transporteur et l'ensemble de sa cargaison ont été emmenés par les 4 braqueurs atinés dans la province du Wadi Fira à la frontière avec le Soudan. C'est là que 3 d'entre eux ont été interpellés en compagnie d'un complice il y a quelques jours. Selon une source proche du dossier, l'interpellation a permis de mettre la main sur les armes qui ont servi au braquage, sur de l'argent en devise ainsi que sur une petite partie de l'or dérobé. Seuls 1,6 kg d'or ont été retrouvés sur les plus de 25 kg que comptait la cargaison. L'étendue du préjudice est évaluée à environ 1,2 milliard de francs CFA, détaille la source, avant d'expliquer que l'or brut volé est tchadien, extrait dans les sites d'orpaillage de Kouri Bougoudi et Kouri 35 à Faya Larjo. À cause de la sensibilité de l'affaire, le tribunal d'Abéché a été dessaisi au profit de celui de N'Djamena. Les 3 braqueurs présumés et leurs complices ont été transférés dans la capitale. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et selon nos informations, le 4e braqueur est toujours en fuite dans la zone de Tiné. Mais les recherches se poursuivent en collaboration avec le gouverneur du Wadi Fira. Le Soudan cherche-t-il des soutiens en vue de sa réintégration dans l'Union africaine? C'est en tout cas ainsi qu'est observée la tournée du général Al-Bourhan en Afrique de l'Ouest. Le chef des forces armées soudanaise s'est rendue successivement au Mali, en Guinée, en Sierra Leone, au Sénégal et en Mauritanie cette semaine. Sa première visite dans ces pays depuis le début de la guerre civile au Soudan. Alors Alexandra Branjon, que faut-il retenir de ce voyage ?
Tout au long de sa tournée, le général El-Bourhan n'a cessé de dénoncer les soutiens extérieurs dont bénéficient les paramilitaires du général Emeti. Il vise notamment les Émirats Arabes Unis, accusés de fournir des armes aux forces de soutien rapide, et le Tchad, où transiteraient ces armes, ce que demande N'Djamena. El-Bourhan cherche à présenter le Soudan comme victime d'une agression, explique un chercheur, et essaye de mobiliser la solidarité africaine contre une ingérence étrangère. Lors de sa visite à Bamako, le président Assimi Goïta a réitéré le soutien du Mali au Soudan, dénonçant des ennemis qui œuvrent contre la stabilité du pays pour convoiter ses ressources. En Mauritanie, le président Oulcher El Razouani, également président de l'Union africaine, s'est dit prêt à contribuer au soutien du Soudan pour surmonter la crise. Mais rien n'a filtré sur la teneur des échanges quant à la réintégration du Soudan au sein de l'Union africaine. À défaut d'une réintégration immédiate, l'organisation panafricaine ayant réitéré son opposition au coup d'État militaire, un réchauffement des relations avec Khartoum n'est pas à exclure, estime un spécialiste.
Alexandra Branjon, au Soudan du Sud, voisin, un couvre-feu nocturne instauré à Djouba, la capitale. Conséquence de l'explosion de violence qui vise les Soudanais résidents résidents dans le pays. Hier, des pillages ont éclaté en province, à Bor, Kouadjok ou encore Awil. À Djouba, 600 Soudanais ont trouvé refuge au QG de l'armée sud-soudanaise. Reportage à écouter dans le journal de Martin Guez dans une vingtaine de minutes. C'est un drame qui avait secoué le Cameroun. Il y a 2 ans, l'animateur radio Martinez Zogo disparaissait. 5 jours après, le 22 janvier, on retrouvait son corps sur un terrain en banlieue de Yaoundé. 2 ans plus tard, l'émotion est toujours vive dans le pays, particulièrement sur Amplitude FM, la radio dont Martinez Zogo était l'une des vedettes. Hier, la station lui consacrait une série d'hommages. Notre correspondant Polycarpe Somba s'est rendu sur place. Reportage.
Embouteillage.
Retour sur les ondes de votre radio, la radio Amplitude FM.
Thierry Valère n'a pas la tâche facile. Depuis 2 ans, c'est à ce jeune animateur qu'il a été confié la lourde tâche de prendre la suite de Martinez Zogo. Le nom de l'émission n'a pas changé, mais remplacer Martinez, affirme-t-il, n'est pas la chose la plus aisée.
C'est très dur, hein. C'est pas évident. C'est déjà une grosse production, une charge énorme, l'émission Embouteillage. Et puis, il faut travailler dur. Et chaque jour qui passe, j'ai toujours ces frissons quand j'arrive à 9h30.
Sur le plateau ce 17 janvier, plusieurs journalistes se relaient, chacun évoquant le lien et le souvenir qu'il a de Martinez Zogo, Billy Show International, journaliste animateur vedette dans la capitale.
Nous avons voulu fuir parce qu'on n'avait plus le courage d'affronter la violence et tout. Nous avons fait des mois sans venir à la radio. On s'est rendu compte que c'était lâche par rapport à lui qui s'était sacrifié. C'est pour cela que nous sommes venus avec une nouvelle énergie pour ce 2e anniversaire, là où on a travaillé ensemble pour dire que nous attendons que justice soit faite et que nous attendrons le temps qu'il faut pour que Martinez ait gain de cause et qu'il ne se sente pas seul.
Ces hommages, selon les uns et les autres, participent de la volonté de garder vive la mémoire du disparu, d'autant soutiennent-ils que le volet judiciaire en est encore qu'au premier balbutiement. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI.
Sur le volet judiciaire, justement, le procès des 17 accusés dans cette affaire est au point mort, enlisé dans des questions de procédure. On en parlait hier avec notre invité, le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono. Entretien à réécouter sur RFI.fr. En bref, au Niger, la chaîne privée Canal 3, suspendue pour 1 mois. Son rédacteur en chef, Seyni Amadou, voit par ailleurs sa carte de presse, suspendue pour 3 mois. Décision du ministre nigérien de la Communication suite à la diffusion par la chaîne d'un classement des membres du gouvernement en fonction de leur performance l'an dernier. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger dénonce une décision très grave pour la liberté de la presse. Clap de fin de la visite de João Lourenço en France. Le président angolais était à Paris ces 2 derniers jours. Visite d'État au cours de laquelle il a rencontré Emmanuel Macron. Il repart avec des contrats d'un montant total de 420 millions d'euros, mais aussi avec une aide de l'Union européenne, plus de 76 millions pour le développement du secteur économique. Nouvelle illustration de la stratégie de Bruxelles mise en place il y a 4 ans, Global Gateway. Elle vise à encourager les investissements privés sur le continent. Pour le commissaire européen aux partenariats internationaux, Joseph Sikela, c'est aussi un moyen de lutter contre l'influence chinoise ou celle toujours plus grandissante de la Russie.
L'incertitude créée par l'effondrement des chaînes d'approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine conjuguée à l'approche très agressive de certains de nos rivaux ont créé de nouvelles dynamiques, que cela soit du côté européen comme chez nos partenaires. Il existe désormais un besoin accru de passer des accords entre des partenaires qui regardent dans la même direction. Et c'est en résumé la proposition que nous souhaitons leur soumettre. Nous pensons en effet qu'au lendemain de certaines expériences vécues, notamment sur le continent africain avec certains de nos concurrents, il y a aujourd'hui une volonté européenne d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus visible et d'encourager les investissements venus du secteur privé. Le modèle actuel n'a manifestement pas abouti aux résultats escomptés. Et les développements réalisés ne sont également pas suffisants pour nos différents partenaires.
Propos recueillis par Paul Lorgerie. Et si l'Union européenne compte sur le secteur privé pour le continent, le Fonds monétaire international, lui, continue ses décaissements en Afrique. Exemple en RDC, où le FMI a approuvé hier hier deux programmes, l'un dédié à la stabilité économique et la lutte contre la pauvreté, l'autre axé sur la résilience face au changement climatique, montant total 3 milliards de dollars sur 3 ans, une somme conditionnée à un certain nombre de réformes structurelles. Mais dans un pays confronté à de multiples défis, quels sont les risques qui pourraient compromettre ses ambitions? Réponse à Kinshasa avec Passion Ligodi.
Selon des experts qui ont participé aux négociations, la RDC fait face à plusieurs risques. D'abord, le conflit dans l'est du pays continue de peser lourdement sur les finances publiques. Les dépenses exceptionnelles de sécurité, estimées à plus d'un milliard de dollars chaque année, détournent des ressources des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé ou encore les investissements structurants. À cela s'ajoute l'avancée du M23 soutenue par Kigali et le blocage persistant des discussions de Luanda qui ne font qu'amplifier les inquiétudes. Ensuite, la dépendance excessive de l'économie congolaise au cours volatile des matières premières, en particulier le cuivre et le cobalt, représente un risque économique important. Une chute brutale des prix de ce produit pourrait perturber la gestion budgétaire et fragiliser les équilibres économiques déjà précaires. Et notre point sensible concerne l'éventualité d'un référendum constitutionnel. Ce projet qui polarise déjà la classe politique pourrait entraîner des tensions sociales et politiques significatives. Il y a aussi le risque de voir des ressources financières et humaines détournées des priorités essentielles pour être affectées. Enfin, la transparence budgétaire demeure un défi, de même qu'un recours excessif aux procédures d'urgence pour les dépenses. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
La RDC ou le SMIG n'augmentera finalement pas le 1er février prochain. Le salaire minimum interprofessionnel garanti devait doubler, passant de 2,50 $ à 5 $. Mesure pourtant annoncée il y a quelques semaines par le ministre du Travail, mais bloquée hier par la première ministre. Elle estime que ni les syndicats ni le Conseil national du travail n'ont été sollicités. Elle dit attendre des éléments saillants avant de signer un décret d'augmentation du SMIG. On part pour le Burkina Faso avant de refermer ce journal. Ouagadougou, où débute aujourd'hui la 13e édition du FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. Un rendez-vous gratuit consacré à la danse traditionnelle, contemporaine ou encore urbaine. Et pour les rendre accessibles à tous, la directrice du festival, Irène Tassem-Bédo, tient à aller à la rencontre des publics moins initiés, dans les quartiers, les marchés et même à la maison d'arrêt de Ouaga.
On a aussi des spectacles que nous allons faire dans le quartier Kamsonre, qui est un quartier populaire, c'est mon quartier d'enfance. Partager des spectacles de danse dans ce quartier-là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, nous allons aller vers eux pour les inciter à venir nous voir dans nos théâtres plus tard. Nous allons faire aussi quelques spectacles au grand marché de Ouagadougou. Un autre spectacle à la cité Ando, c'est un autre marché de légumes où il y a plein de femmes. Et nous allons travailler aussi à la MACO, à la maison d'arrêt. Nous allons faire aussi des spectacles là-bas, dans les écoles. Voilà, on essaye de sortir un peu du cadre du théâtre et aller vers les spectateurs où qu'ils sont. C'est vraiment ça et on se rend compte depuis des années que, en fait, on se fait des idées et que nous avons un très, très, très grand public dans les quartiers. Des gens qui viennent nous voir, qui apprécient, qui viennent avec leur tabouret s'asseoir et regarder les spectacles. Donc, peut-être que nous aussi, les artistes, nous devrions redimensionner tout ça, repenser tout ça et trouver les moyens d'aller vers le public.
La directrice du FIDO avec Frédéric Garat. Rendez-vous donc jusqu'au 23 janvier au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Et d'ici là, eh bien, je vous laisse avec Julien Coquel.